Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel.
Quand j'étais en France, pas cette culture-là, en fait, de bah, si tu fais des erreurs, on apprend, en fait, on débrief. Il y a des séminaires entiers qui s'appellent morbidité et mortalité des patients, où on étudie que les cas qui ne se sont pas bien passés, qui ne se sont pas passés comme il aurait fallu. Et les gens qui étaient impliqués dans ce cas-là présentent ce qui s'est passé, etc. Il y a des experts qui viennent et on en discute et on apprend tous ensemble. Ça devient une opportunité d'apprentissage et pas une opportunité pour casser, pointer du doigt.
Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Asma.
Wa alaikum salam.
Comment vas-tu?
Ça va, alhamdoulilah.
Votre matinale en Angleterre, il est assez tôt là, non?
Oui, j'aime bien me lever tôt, donc c'était pas quelque chose que j'arrivais à faire avant, mais oui, là il est 7h45.
Les matinales de manière générale?
Oui, enfin, depuis que j'ai eu mon petit garçon, oui.
Forcé.
Enfin, avant, j'avais déjà l'habitude de me lever tôt, surtout quand je travaillais à l'hôpital dans certaines unités qui commencent à 7 heures. Mais c'était pas forcément quelque chose que je faisais quand je travaillais au laboratoire. Mais maintenant, j'aime bien me lever tôt. J'arrive au labo en général vers 6h15. J'aime bien commencer tôt.
Cool. C'est des bonnes habitudes. Alors Asma, je suis très heureux de t'accueillir. C'est vrai qu'on a mis un peu de temps à se trouver un petit créneau, surtout avec la différence horaire, c'est pas évident. Mais alhamdoulilah, on a réussi.
Ouais.
Pour commencer, Asma, je vais te demander de nous faire une petite présentation, juste pour nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais.
Ok, alors je m'appelle Asma Soltani, je suis pédiatre, neurologue, et j'habite à Cambridge, au Royaume-Uni, en Angleterre, qui est à peu près à 1 heure de Londres. J'ai donc grandi en France, dans le Val-d'Oise, où j'ai fait mes études de médecine à Paris-Descartes. Et après la fac de médecine, j'ai décidé d'aller faire mon internat à l'étranger. Voilà.
Cool. Tu n'as pas toujours vécu à Cambridge, comme tu le disais. On va revenir un petit peu sur ton parcours, Inch'Allah, pour essayer de comprendre comment tu en es arrivé là. Est-ce que tu as toujours voulu travailler dans le médical?
Quand j'étais plus petite, j'avais plusieurs choses que je voulais faire. Et je me souviens très bien de ce que je disais souvent aux gens. Je voulais faire 3 choses. Je voulais être juge pour enfants. Je voulais être médecin. Et j'ai été fascinée par l'épisode de Tintin qui allait sur la Lune. Et j'étais persuadée que c'était quelque chose que je pouvais faire, tout en étant juge pour enfants, évidemment, et médecin. Donc, c'est vraiment les choses. Petit à petit, je me suis rendu compte que aller sur la Lune, c'était peut-être pas possible. Mais être médecin, ça a toujours été pas l'unique chose à laquelle je pensais, mais oui, ça a toujours été là.
D'accord. Donc tu as fait les études au lycée, quoi, c'était S.
Oui, c'était j'ai fait donc un S
Ouais.
et pendant le lycée, en fait, la médecine, ça se confirmait de plus en plus.
Ouais.
J'hésitais avec une école prépa et peut-être faire une école d'ingénieur,
OK.
mais ça me disait vraiment pas de travailler en fait pour une entreprise. Ça a toujours été quelque chose que je trouvais vraiment étrange. Donc
Pourquoi?
voilà, faire médecine, ça me... Pardon, pourquoi?
Oui.
Ça me paraissait très bizarre de travailler pour vendre quelque chose. Ça n'était pas quelque chose qui m'attirait du tout. Donc, je n'aimais pas du tout cet aspect-là. J'avais une vision très étriquée, évidemment, mais c'est vraiment une des choses qui m'a poussée plus vers la médecine. J'aimais aussi beaucoup l'éducation. J'ai toujours donné des cours particuliers. J'ai toujours aimé expliquer des choses. Donc, j'ai hésité un peu avec ça, mais finalement, j'ai postulé donc, pour la fac de médecine et voilà. Et du coup, j'ai fait mes études de médecine à Paris-Descartes. Donc, et voilà, j'ai pas regretté, non.
Dans ta famille, il y a d'autres médecins?
Non, pas du tout. Non, ma maman était institutrice et mon papa était garagiste. Donc, pas de médecin, et même dans la famille un peu plus étendue. Des amis de la famille, oui, mais pas dans la famille immédiate.
C'est un peu la fierté quand on fait des études en médecine, non? C'est un peu le la médecin, avocat, architecte, c'est dans le top 3, non?
Ouais. C'est très vrai. Je viens d'une fratrie de 6 enfants et je pense qu'on a coché quasiment toutes les cases.
Ouais.
Mais c'est vrai que mes parents et surtout ma maman, ça a toujours été quelque chose de très très important pour eux, l'éducation. Donc voilà, entre la médecine, pharmacie, ingénieur, avocat, voilà, c'est.
Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que dans votre famille, tu penses que tu m'as dit que chez tes frères et sœurs aussi, c'est un peu le même style. Qu'est-ce qui a fait que entre guillemets, vous avez réussi, enfin, vous avez atteint ce niveau d'études?
C'est vraiment ce qui se passait à la maison, en fait. Ma mère, elle avait une vision très, très claire, en fait. Elle voulait qu'on fasse des études et qu'on apprenne. Et pour elle, c'est vraiment ce qu'elle nous disait, c'était je veux pas que vous fassiez des études. Enfin, la raison pour laquelle je vous encourage à faire des études, c'est pas pour avoir un métier et gagner des sous, parce que ça, c'est rizq, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Mais c'est pour que vous compreniez les choses, c'est pour que vous soyez éduqués et que vous puissiez transmettre, en fait, cette éducation. Et du coup, ça a toujours été un peu pour ce but-là. Donc voilà, et c'était très. Enfin, on avait toujours des devoirs supplémentaires.
Ouais.
C'était aller toujours
Pendant l'été,
voir.
les petits livres
Ouais.
d'exercice pendant l'été, c'est ça?
Ah oui, mais pas que pendant l'été, tous les jours.
Ouais.
Ouais,
Inch'Allah.
elle était très, très, très présente, très, très investie. Je la remercierai jamais assez, parce que
Ça
quand
fait
on
la
est.
différence.
Voilà, on comprend pas forcément, on est content de faire quelque chose auquel on arrive bien. Donc quand on est bon à l'école, c'est vrai que ben, c'est un peu un cercle vertueux. Mais on comprend pas forcément le but plus lointain. Et maintenant, oui, vraiment, c'est vraiment grâce à elle. Ouais.
Donc il y a sûrement un moment où tu es passé de enfin je fais ce qu'on me dit de faire à avoir tes propres objectifs et à travailler pour toi-même, enfin à te mettre tes propres motivations, on va dire. C'est arrivé quand ça?
Ça, c'est arrivé quand j'étais au collège.
Déjà, d'accord.
J'étais au collège, oui. J'ai vite compris. Alors, moi, j'étais dans un collège ZEP. Je comprenais déjà, en fait, qu'on était dans un collège qui n'était pas forcément le plus haut. Enfin, c'était quelque chose, voilà, qui était assez évident. Et moi, je savais que je voulais aller à l'université. Je savais déjà que je voulais soit faire prépa, soit médecine. Donc, et j'ai aussi des professeurs qui ont, surtout mes professeurs de troisième, qui ont fait des dossiers à tout va pour que j'aille dans des lycées à Paris. Parce que, enfin, ils me disaient, non, mais vraiment, il faut que tu ailles dans un meilleur lycée. Et finalement, bon, ça n'a pas marché, mais j'étais dans un lycée qui était hors de mon secteur, notamment grâce aux lettres qu'ils ont faites, etc. Là, ça a encore plus renforcé cette motivation interne, en fait. Voilà, de dire, bah oui, en fait, il y a aussi des professeurs qui croient en moi, qui sont persuadés que je peux y arriver, parce que j'avais pas forcément des modèles de, voilà, c'est ça ce que j'aimerais être. Finalement, c'était très flou, en fait, dans ma tête. C'était pas lié à une personne, en fait, un modèle, un exemple que je connaissais. Et voilà, et après au lycée, ben pareil, j'ai
D'accord.
continué vraiment à motivation.
Trop bien. Ok. Donc, ensuite, tu arrives, donc tu sais que tu veux faire de la médecine. La médecine, c'est vaste. Comment est-ce que tu fais pour t'orienter? T'as pas fait de prépa, hein. Du coup, t'es rentré en école de médecine, mais la première année, bon, c'est aussi difficile que la prépa, je pense. Tu te débrouilles bien, tu t'orientes comment après?
Non, la première année de médecine, c'était vraiment le saut, vraiment, c'était très, c'était, je m'attendais pas du tout à ça. Je savais que c'était très difficile. Et en fait, quand je suis arrivée à Paris, je pense que c'est pas le cas dans toutes les facultés de médecine en France. Et après, j'en ai eu la confirmation. Mais en fait, il y a énormément de gens qui, enfin, du coup, d'étudiants qui récupèrent les cours avant, qui font des écoles d'été, qui s'appellent des prépas d'ailleurs, mais c'est des trucs payants, quoi, c'est pas au lycée, et qui arrivent extrêmement bien préparés. Et moi, c'était vraiment pas du tout mon cas. Je pensais que j'étais préparée, mais je me suis vite rendu compte. Donc, la première année, j'ai pas réussi à avoir médecine. J'ai eu sage-femme parce que c'était un concours, je pense peut-être que ça allait encore, où on passe un concours classant qui donne accès à dentiste, médecine, kinésithérapie et sage-femme. Du coup, j'ai eu sage-femme et je me souviendrai toujours il y a un grand amphi en fait où on vient en fonction de son classement. Et on doit soit accepter, soit refuser, en fait, si on a eu une place dans une de ces formations. Et donc, on descend et on doit signer des papiers, en fait, devant tout le monde, pour dire qu'on prend cette place ou qu'on la refuse. Et je me souviens que l'administratrice donc, qui était là, de la scolarité, elle me dit, voilà, est-ce que vous refusez, vous prenez la place? Et je lui dis, non, je refuse. Et du coup, elle me dit, non, mais attendez, vous comprenez, vous pouvez pas, si vous refaites l'année, vous n'aurez pas automatiquement cette place. Et en fait, sur le coup, je me suis dit, en fait, on était 3500 candidats, j'étais arrivée 630. Donc, en fait, et le dernier classé en médecine, il était 420, je crois. Donc, en fait, elle voyait pas le peu de place qui me séparait, en fait, de ce que je voulais. Elle voyait, en fait, toutes les places que j'avais prises, en fait, avant, quoi. Et moi, je voyais ça. Et ça aussi été un moment où je me suis dit, en fait, oui, il faut croire en soi. Et c'est pas, enfin, faut pas forcément s'attendre à ce que les autres croient en toi, en fait. Ça, c'était, je me souviens, je lui dis, oui, je comprends bien. Puis elle me dit, ah, ok, je vais juste vérifier. Voilà, j'ai refait l'année et ça s'est, alhamdoulilah, ça s'est beaucoup mieux passé. Et après, voilà, j'ai intégré donc la deuxième année de médecine, qui est en fait la vraie première année de médecine, vu que pendant la première année, on fait que des maths, de la physique, enfin des matières très scientifiques qui permettent d'avoir des questions qui sont très discriminantes et qui permettent de classer en fait facilement les étudiants.
Ouais, c'est un filtre en fait. C'est
Ouais.
juste un filtre. Ok, d'accord. Et après ça, ça s'est simplifié un petit peu. On dit souvent que c'est une des plus dures la première année. Ou...
La deuxième année, c'était vraiment, après le stress de la première année et la quantité de travail en fait, qu'il faut fournir dans un temps très restreint, ce n'est pas forcément des notions qui sont très difficiles, mais c'est le temps en fait. C'est vraiment le temps, on a 3 mois pour ingurgiter énormément de choses. Enfin, ça s'appelle un semestre, mais en fait, on a juste 3 mois de cours. Et après, très rapidement, c'est le concours quoi, en décembre, donc la première partie. La deuxième année, c'était beaucoup mieux. Et en deuxième année, en fait, je me suis mise à vraiment regretter en fait le temps que je passais à faire des sciences et à me dire en fait j'aimais beaucoup la chimie, j'aimais beaucoup la biologie. La biologie, on en faisait beaucoup plus, qui était beaucoup plus centré sur le corps humain en fait. Donc c'est là où j'ai commencé à me dire, déjà en première année, j'avais entendu parler des parcours médecine recherche. Et j'avais candidaté en fait pendant l'été, enfin juste après la première année. Et du coup, on a commencé du coup à avoir un peu des cours qui faisaient partie de cette formation. Et là, j'ai vraiment pas regretté parce que je me suis dit, ah, heureusement que j'ai fait ça parce que ça me permet de continuer à faire des maths, de la physique, de la chimie.
Donc je crois qu'il y a une sorte de deuxième classement qui apparaît, je crois que c'est en master, au bout de 4-5 ans, où là on choisit vraiment sa spécialité, c'est ça?
Alors oui, en fait, dans les études de médecine, donc on fait les 6 ans en fait, sont
6 ans.
découpés en 2 blocs. Donc après la première année, donc deuxième, troisième année, on a des stages à l'hôpital, mais qui sont pas très contraignants. On a beaucoup de cours. Et après, à partir de la quatrième année, on devient externe. Donc, on a en fait un contrat à mi-temps avec l'hôpital, donc le groupement d'hôpital qui est rattaché à l'université. Donc, pour moi, c'était la PHP, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris. Et on est affecté à différents services. Et tous les matins, en fait, on est à l'hôpital. On fait partie de l'équipe soignante. Et on est censé en fait apprendre un petit peu ben, toutes les, je dirais, les soft skills entre guillemets nécessaires à devenir un médecin.
Et
Et
donc la
l'après-midi, on est...
communication, l'empathie, comment communiquer avec un patient, tout ça.
Ouais, là je souris un peu parce que je pense que c'est encore très déficient, surtout malheureusement, je pense en France, il y a beaucoup de médecins qui veulent ça. Nous, on avait une formation en fait de communication, une formation à la, alors je me rappelle plus très bien, à l'éthique médicale, je crois. Je me souviens plus très bien le nom de ce module. C'était très peu d'heures, mais c'était un médecin qui avait été au Canada en fait et qui avait été impressionné par la formation justement à la bienveillance qui était faite au Canada. Et qui avait voulu importer ça ici. Donc, on avait des groupes en petits, enfin des petits groupes, quoi, vraiment très petits, où ça ressemblait beaucoup à des groupes de parole, entre guillemets, où on faisait des jeux de rôle, où on jouait le patient, le médecin, où on faisait un petit peu, on réfléchissait un petit peu à notre pratique de la médecine, à ce qu'on. Comment est-ce qu'on se sent quand quelqu'un nous dit quelque chose de très difficile ou quand on doit annoncer des nouvelles difficiles, etc. Et ça, vraiment, c'était pas quelque chose qui était fait à l'hôpital, malheureusement. Donc voilà, et à la fin des 3 ans donc d'externat, on passe ce grand concours qui s'appelle l'examen national classant ou l'examen classant national, le CN. Et donc, à l'issue de ça, on choisit notre spécialité et notre ville.
Ok, et toi, tu choisis?
Moi, je ne choisis pas. Voilà. Donc, en fait, pardon. En fait, comme j'ai fait le parcours qui s'appelle médecine sciences ou l'école de l'INSERM, qui est un parcours de formation à la recherche pendant la fac de médecine qui est assez intense. On a l'option, en fait, avant de commencer l'externat, donc avant de commencer la quatrième année, de s'arrêter pour faire un master de recherche. Donc, les modules qu'on fait pendant la deuxième et la troisième année nous permettent de valider un master 1. Et donc, moi, je décide de faire ça parce que j'étais vraiment très intéressée par la recherche. Et à l'issue du master 2, on peut revenir et finir la faculté de médecine ou on peut décider de faire une thèse. Moi, j'ai décidé de faire une thèse. Donc, je me suis arrêtée pendant en tout 4 ans et j'ai fait en neurosciences à Paris également. Donc, quand je reviens,
En neurosciences, pourquoi en neurosciences en particulier?
j'étais vraiment fascinée par le cerveau. Vraiment. Il y
Ok.
avait deux choses qui m'intéressaient, c'était soit la cancérologie, soit la neurologie. Et j'ai fait mon master 2 en cancérologie et ensuite la thèse ça a été en neurosciences parce que enfin pour faire une thèse il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires donc le labo le groupe le sujet etc. Vraiment cette thèse-là en neurosciences c'est ce qui s'alignait le mieux et j'ai beaucoup aimé et ça m'a appris énormément. Et ça a confirmé vraiment ma volonté de continuer cette double carrière en fait de faire à la fois de la clinique et de la recherche. Donc quand je reviens en médecine, j'ai donc 4 ans de plus que mes collègues. Beaucoup de mes camarades de promo en fait sont en première année d'internat. Donc pendant ma thèse, je discutais beaucoup avec eux de ben, c'était comment l'externat, etc. Et quand je suis arrivée en fait en quatrième année, donc toute ma promo en fait commençait l'externat. Donc j'avais pas, on était tous dans le même bateau entre guillemets. Et l'externat c'est une nouvelle page quoi. Quelque chose qui m'a vraiment beaucoup déçue, c'était que il n'y avait pas du tout cette même. Enfin, la hiérarchie était très pesante à l'hôpital, vraiment. Et une hiérarchie qui est nécessaire, dans beaucoup de cas, mais vraiment confine parfois à l'abus de pouvoir, vraiment, pour le dire vite. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment déçue. Et donc, j'ai commencé un petit peu à chercher ailleurs. Et je me suis dit, c'est pas possible, on ne peut pas. Et notamment grâce à les cours qu'on avait à la faculté, et notamment ces cours de communication et d'éthique. Parce que du coup, on avait une liste de lecture. Et c'était souvent des auteurs étrangers, médecins, mais étrangers. Et quand je lisais sur leur pratique médicale, je retrouvais pas du tout ça, en fait. Enfin, je vais pas mettre tous mes formateurs dans le même panier, mais il y avait quand même un système qui ne reflétait pas du tout ça, en fait. Et des comportements que je voyais répétés dans plusieurs services. Par des gens très différents, de grades très différents à l'hôpital. Et du coup, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, il doit y avoir un moyen de faire de la médecine autrement. Et aussi, quand je disais que j'essayais de pas trop dire que j'avais fait de la recherche, parce que je voulais pas vraiment être vue différemment. Et surtout, j'avais pas fait de médecine en fait pendant 4 ans. Donc j'étais au même stade que les autres. Mais quand je demandais conseil, donc à des chefs de service ou des médecins, on me disait, mais c'est pas possible en fait de faire et de la recherche et de la médecine. Tu vas pas y arriver. Donc voilà, il faut choisir. Et encore une fois, moi quand je lisais en fait des articles scientifiques, il y avait souvent en fait des médecins dans les auteurs. Encore une fois, souvent à l'étranger. Et je me disais, mais en fait, si, ça existe. Et en cherchant, j'ai trouvé qu'il y avait des formations. Il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas de parcours internat recherche. Maintenant, ça se développe un petit peu. Il y a d'ailleurs un projet de loi, en fait, ou en tout cas, il y a des internes qui ont proposé un parcours comme ça. Et en cherchant, bah, ça existait aux États-Unis, ça existait en Suisse, ça existait en Angleterre, ça existait un peu en Belgique. C'est dans plusieurs pays. Voilà. Donc, pendant ma quatrième, cinquième année de médecine, j'ai fait ces recherches-là et j'ai postulé en fait pour un poste d'internat en Angleterre. Donc, quand j'ai passé un national classant, je savais que j'allais très probablement pas faire, voire vraiment pas faire mon internat en France.
Donc c'est possible de finir ses études de médecine à l'étranger, en Angleterre notamment.
Oui, c'est possible. C'est pas évident. Il n'y a pas de chemin tracé, mais c'est possible. Et je suis pas la seule à l'avoir fait. Donc voilà, faut se renseigner, faut être armé de beaucoup de patience et de temps aussi. Voilà.
Et au niveau de l'anglais, tu as dû passer un, je sais pas, le TOEFL ou un des examens pour montrer tes compétences, j'imagine.
Alors donc dans ces pays en fait donc moi j'avais beaucoup regardé les États-Unis et l'Angleterre et en fait il y a l'équivalent de l'ordre des médecins donc l'organisme qui sanctionne en fait la pratique de la médecine et en fait on peut candidater en tant que ce qu'ils appellent International Medical Graduate donc quelqu'un qui a eu son diplôme de médecin ailleurs. Et un des critères, c'est un examen d'anglais. Pour l'Angleterre, c'est pas le TOEFL, c'est le IELTS. Donc, qu'il faut passer. Ils me disent exactement c'est quoi les notes qu'il faut avoir. Il est valide pendant 2 ans. Et puis, l'autre chose qu'il faut avoir, c'est le diplôme en lui-même pour pouvoir soumettre sa candidature donc auprès du General Medical Council, qui est l'équivalent de l'Ordre des médecins en Angleterre.
Donc tu leur envoies ton dossier et ils acceptent assez facilement.
Non. Donc en fait, j'envoie mon dossier, oui. Ensuite, ils te disent, leur site est très très bien fait et il y a vraiment beaucoup d'informations dessus et ils répondent aux mails, etc. Ils sont très très réactifs. Mais ils ont eu des cas de fraude, notamment, je pense, dans les années 70. Donc, en fait, ils vérifient, revérifient plusieurs fois les informations. Donc, c'était beaucoup d'aller-retour d'emails. Et la faculté, en fait, est forcément partie prenante. Donc, si on veut faire ce parcours-là, il faut vraiment avoir, entre guillemets, des alliés dans sa faculté et surtout dans la scolarité de sa faculté. Leur dire que, enfin, moi, je ne savais pas, mais en fait, j'envoyais des mails avec des documents qui étaient signés donc, par la scolarité de ma faculté. Et en fait, le GMC envoyait des mails à ma faculté directement pour leur dire est-ce que cette étudiante est bien étudiante dans votre faculté, est-ce qu'elle a bien eu son diplôme, etc. Et j'ai su qu'en fait c'était des moyens pour eux de vérifier en fait la véracité des documents, des informations,
Je
etc. Donc
vois.
ça prend un peu de temps.
D'accord. Donc, tu arrives à être admise, alhamdoulilah.
Alhamdoulilah.
Donc, là, tu fais ton externat. D'ailleurs, la différence entre internat et externat, tu peux nous rappeler?
Donc l'externat, c'est ça fait partie de la faculté de médecine, en tout cas en France. Et donc c'est la quatrième, cinquième et sixième année où on est tous les matins à l'hôpital. On fait partie de l'équipe médicale. Et ensuite l'internat, c'est là où on choisit sa spécialité et on est à l'hôpital à plein temps
D'accord.
pour apprendre sa spécialité. En Angleterre, par exemple, l'externat, c'est 2 années qui sont après la faculté de médecine parce que il passe beaucoup moins de temps en fait à être vraiment partie intégrante de l'équipe médicale pendant leurs études de médecine. Donc voilà. Et l'autre chose que j'ai dû faire, c'est trouver un poste. Parce que en France, en fait, c'est un sorte de tunnel, quoi. On fait la fac de médecine, on a une place. On ne sait pas dans quelle ville et dans quelle spécialité. Ça dépend de notre classement au concours. Mais on a une place d'internat qui nous attend. En Angleterre, c'est la même chose pour les étudiants qui ont fait leurs études en Angleterre. Mais par contre, pour ceux qui viennent de l'étranger, il faut candidater, en fait, il faut envoyer sa candidature à plusieurs postes. Et puis moi, j'étais intéressée par des postes d'internat recherche. Donc j'ai postulé à quelques postes, dont un qui était situé à Londres, à Imperial College, qui était vraiment le poste que je voulais.
Ouais.
Et donc j'ai candidaté à celui-là. Je remplissais pas mal de conditions. Il fallait avoir une thèse, il fallait avoir fait de la recherche avant. Voilà, donc je me suis dit, ben, ça va être très compétitif. Et alhamdoulilah, j'ai eu ce poste-là que je voulais. Donc c'est allé
Ok.
plutôt.
Très bien. Donc tu termines tes études là-bas, j'imagine que ça se passe bien.
Oui.
Donc, tu finis par 2 années, en fait, au final. Presque 2 ans à terminer avant de pouvoir exercer.
Il me restait un peu plus. En fait,
Ouais.
comme j'avais fait l'externat, donc on arrive, enfin, eux, l'équivalent de l'externat, ça s'appelle Foundation, ces
OK.
2 années. Moi, comme j'avais fait l'externat en France, je suis arrivée à la deuxième année de Foundation.
D'accord.
À l'issue de cette année, ici en Angleterre, qu'ils choisissent leur spécialité et leur
D'accord.
ville. On peut candidater pour plusieurs spécialités. Voilà, et donc j'ai candidaté pour pédiatrie. Je voulais faire de la neuropédiatrie. Voilà. Et c'est là où j'ai candidaté notamment pour Cambridge, encore une fois pour un internat, pour continuer l'internat recherche. Et alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Donc j'ai fait suite à ça 3 ans de pédiatrie. Et voilà, là j'ai fini mon internat. C'était en novembre 2020, j'ai envie de dire, 2021, je ne sais
Ouais, OK.
plus. 2020. Et voilà.
D'accord. Mais quand tu travaillais, tu étais rémunéré pendant ton internat.
Oui, une rémunération qui est correcte par rapport à malheureusement la rémunération des internes en France, qui est à 1 500 euros
Wow.
si on pas de garde. Voilà. Après un bac plus 6, quand même, c'est ridicule. Et une rémunération qui n'augmente pas alors que pendant les 4 ou 5 ans d'internat, qui sont après le bac plus 6, hein. Donc, on arrive à bac plus 10, où très souvent, on est à moins de 2 500 euros très facilement pour payer le loyer, etc. Et c'est des gens qui ont bah, 35 ans. Donc,
Wow. Alors qu'en
c'est un.
Angleterre, ça va être plutôt combien?
En Angleterre, ça va être donc dès la première. Le salaire augmente et il y a une différence entre internat de première année, de deuxième année, etc. Donc, c'est avec la seniorité. J'étais payée à 2 500, 2 300, je pense, pounds
Ouais.
net pour la
D'accord.
première année d'internat. Et après, ça augmente au fur et à mesure. Et ça, c'est sans les gardes.
Ouais. D'accord, donc
Si on
c'est
est.
plus de 3 000, 3 500 euros. voire plus
Oui, si
souvent.
on fait un service avec des gardes, oui.
Ouais.
Et c'est quand même beaucoup plus, enfin, beaucoup plus juste, je pense, par rapport au nombre d'études, enfin, d'années d'études et aussi aux responsabilités, en fait, qu'on a dans notre travail.
Ouais. Ok. Cool. Par rapport à ton parcours en tant que musulmane, donc là on a parlé de ton parcours vraiment purement académique, scolaire et professionnel jusqu'à maintenant. Souvent c'est un problème pour ceux qui portent le voile, celles qui portent le voile, pardon. Les études dans n'importe pas mal d'études, mais notamment les études de médecine et notamment quand on rentre dans, on devient externe et interne. Ça t'a posé problème, toi? Est-ce que ça fait partie de ta prise de décision aussi de partir aussi? Et comment ça se passe aussi en Angleterre par rapport à ça?
Comment c'était à la faculté? Donc, on peut le porter à la faculté en France,
Ouais.
heureusement. À l'hôpital, non, parce que c'est un service public. C'était difficile de devoir l'enlever. J'avais pris cette décision de l'enlever pour pouvoir continuer mes études. Mais c'était vraiment quelque chose que je trouvais très difficile et très difficile à comprendre, en fait. Et ça, je pense que ça a joué un rôle, oui, dans ma décision de partir, parce que je me voyais pas à 40, 50 ans en tant que médecin installé. Enfin, moi, j'avais de la, je voulais faire, je continuais à faire de la recherche, donc je pouvais pas, c'était pas dans mes options de m'installer en ville où là, effectivement, dans son cabinet, on devient indépendant, enfin, on n'est pas lié en fait à l'hôpital public, et on peut porter le voile ou n'importe quel signe religieux qui nous plaît. Mais pour moi, c'était l'hôpital public. Donc là, je me suis dit, non, vraiment, j'aurais beaucoup, beaucoup de mal en fait avec ça, et je voyais pas vraiment les mentalités potentiellement changer. Parce qu'avec mes camarades de promo, c'était pour eux, c'était étrange. C'était bizarre que je porte le voile. On me posait souvent la question, mais pourquoi tu le portes? C'était sans cesse des questions qui, moi, me semblaient vraiment intrusives, en fait, des gens qui n'étaient pas amis avec moi et qui se permettaient quand même de me poser des questions ou d'émettre, enfin, ou de donner leur avis, en fait. Oui, ça, c'était difficile. Je pense que la plupart des gens et la plupart des médecins dans les services où je suis passée, c'était vraiment, pour eux, c'était, bah, peu importe quoi, qu'on le porte ou pas. Mais j'avais souvent des soucis avec plutôt la cadre de santé, les infirmières, qui allaient dire, une fois, dans un service où je portais un bandana, en fait. Et ça posait pas de problème, initialement. Et puis un jour, je me suis convoquée dans le bureau du chef de service, qui m'a dit clairement, écoutez, moi, ça ne me dérange absolument pas. Par contre, vous restez ici pendant 3 mois. Les collègues et les membres de mon équipe que ça dérange, en fait, bah, je travaille avec eux tout le temps. Donc, je ne vais pas rentrer dans un conflit avec mes collègues, mais sachez que, voilà. Et j'ai eu d'autres plus ou moins, enfin, interactions comme ça. On m'a fait comprendre que c'était. Mais celui-là, c'est celui qui a été le plus clair, en fait. Je l'ai dit vraiment, voilà. Donc, je vais vous demander de l'enlever, et puis ça va vous faciliter la vie à vous aussi, en fait. Et je pense qu'il avait raison, parce que, en fait, après, les gens, ils voient plus que ça. Parce que, après, ils voient que ça, en fait. Par rapport à l'Angleterre, quand je suis arrivée ici, bah, c'est pas du tout un problème. C'est pas du tout vu comme ça. Ça fait 6 ans que j'habite ici et que je travaille ici. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends encore qu'on me pose la question, pourquoi est-ce que je le porte? Ou qu'on me pose n'importe quelle question par rapport à ma pratique religieuse des collègues, quoi. Pas des amis ou des gens avec lesquels je suis plus proche, mais des gens vraiment avec qui je travaille. Jamais. Au contraire, il y a plusieurs anecdotes qui m'ont montré qu'en fait, vraiment ici, on ne me voit pas d'abord comme une femme qui porte le voile. On me voit d'abord comme un médecin quand je suis à l'hôpital, comme un interne quand je suis avec mes collègues, comme une chercheuse quand je suis à l'hôpital. Et ensuite, oui, une des choses qui me caractérise, c'est que je suis une femme et que je porte le voile. mais c'est pas la première chose qu'on voit. On voit le point commun en fait qu'on a ensemble. Et ça change mais vraiment drastiquement le type de d'interaction, le type de relation professionnelle qu'on peut avoir.
Tu me disais, il me semble, quand on se parlait au téléphone, il y avait une anecdote, je me souviens plus c'était quoi, c'était dans un cours magistral,
Oui,
une femme
ça
avec un
c'était marrant.
niqab, c'est ça? Ouais.
Ah bah, elle partait une rabaya. C'était
Nabéa.
en fait, c'était ma première année, donc j'étais à Imperial College, j'étais pas à Cambridge, mais c'était ma première expérience en fait de travailler à l'hôpital en Angleterre. Et donc en tant qu'interne, on a des cours en fait régulièrement une fois par semaine qui sont organisés donc sur différents hôpitaux, mais à l'hôpital où j'étais. Et donc il y a une représentante de la scolarité de la fac qui nous envoie des mails pour nous donner le programme. Et donc là je vois qu'elle s'appelle Asma et je me dis ah tiens c'est le même prénom que moi. Mais c'est tout. J'arrive pour assister au premier cours et là il y a une dame qui porte une rabaya noire qui nous ouvre la porte, qui nous dit bon allez-y, installez-vous, etc. Et là je percute pas du tout que c'est elle, Asma en fait, la représentante de la scolarité, en fait la chef de la scolarité des internes qui sont dans cet hôpital-là. Donc elle est à la tête d'une équipe en fait. Et donc je m'installe et donc elle fait les réglages, etc. Et puis il y a le prof qui arrive pour nous donner le cours et puis il commence à discuter, etc. Et puis elle commence à dire oui bonjour à tous, je suis Asma de machin, etc. Et voilà professeur tel qui va vous donner le cours aujourd'hui et puis signez le registre ici pour que je puisse m'assurer que vous avez assisté au cours. Et là mais moi je suis en fait quand elle commence à parler je me dis oh, mais mince c'est pas possible ça va mal se passer en fait le prof va pas bien se comporter avec elle en fait parce que en tant que musulmane, surtout en France, c'est peu de choses qui sont verbalisées, en fait. C'est beaucoup de choses qui sont de l'ordre du comportement, du regard, du ton, etc., qu'on emploie avec moi, qui est complètement injustifiée, en fait. Donc, voilà, en fait, je suis assise dans cet amphi et vraiment, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que, en fait, il y a beaucoup de comportement malheureusement en fait que j'ai intégré totalement parce que je me dis en fait c'est pas possible, ça doit être sa première journée, personne lui a dit que c'était pas possible en fait de venir comme ça au travail vraiment. Et en fait le professeur ne réagit pas du tout comme ça passe très bien et je regarde autour de moi et en fait je peux voir sur les visages de mes collègues qu'il n'y a absolument aucun problème. Je me dis, alors, soit ils sont tous d'un stoïcisme, mais alors,
Pas exprès, en semblant.
énorme, soit, en fait, j'ai un problème avec la manière dont je pense, en fait. Et du coup, là, je me suis dit, j'ai vraiment dû, en fait, déconstruire pas mal de choses, en fait, dans ma tête, que je pensais pas être là. Donc, c'est tout ça, en fait, ça nous affecte bien au-delà de ce qu'on pense, non, malheureusement. Et après, alhamdoulilah, enfin, à l'hôpital, enfin, il y a des chefs de service qui portent le voile, il y a des, mais pas que ça en fait, il y a des chefs de service qui sont des femmes noires, il y a des chefs de service qui sont handicapés en fait, il y a toute cette diversité là en fait. Moi, je la voyais pas. Il y a des chefs de service en fait qui sont indiens, qui sont là, enfin dans leur poste grâce à leurs compétences et qui ont un accent à couper au couteau. Tu comprends très bien ce qu'ils veulent dire, mais j'ai assisté à plein de réunions où en fait vraiment oui, ils ont un accent et c'est quelque chose qui aurait été inacceptable en France. Oh, les gens auraient haussé les sourcils, auraient fait des remarques, etc. Là, c'est pas du tout, c'est un non-sujet. C'est vraiment un non-sujet. On est là pour parler de patients, pour faire notre travail correctement. Et du moment qu'on se comprend, pas de problème.
Ouais. Donc ça c'est au niveau de en tant que musulmane comment tu l'as ressenti et en tant que étudiante, juste étudiante,
Oui.
est-ce qu'il y avait des différences?
Oui, il y a beaucoup de différences dans la manière dont le curriculum même est pensé. Donc, il faut savoir qu'en Angleterre, c'était, je pense, au début des années 2000, où il y a une grande refonte, en fait, de l'internat en Angleterre. Où il y a beaucoup de choses qui ont changé, parce qu'il y avait des rap, enfin il y a des rapports d'évaluation qui sont faits très régulièrement. C'est quelque chose qui est pas vraiment très intégré dans la culture française, mais ici les choses en fait, cette culture de l'audit est très ancrée. Et donc il y avait des problèmes, oui, qui avaient été identifiés dans un de ces rapports, qui étaient le paternalisme, le fait que les internes faisaient beaucoup trop d'heures, de longues heures, qui étaient un détriment en fait à leur formation, à leur santé, à leur safety aussi au travail. Et donc
Sécurité.
beaucoup de choses ont changé. Voilà, leur sécurité, en fait, leur capacité à prendre des décisions quand ils n'ont pas dormi pendant 24 heures, en fait. Ça, c'est inhumain, en fait. Donc maintenant, il n'y a plus de garde de 24 heures. Ou sinon, si c'est des gardes de 24 heures, c'est des gardes qui sont faites en équipe. Donc on n'est pas seul. Par exemple, dans certains services, dans des gros services, par exemple, de traumatologie, ça fait plus sens en fait d'avoir quelqu'un qui est là pendant 24 heures, mais cette personne ne sera pas seule à ce niveau de séniorité en fait. Donc voilà, et aussi beaucoup de formation pour les encadrants des internes. Donc par exemple, quand on est interne, on a deux encadrants, dont un encadrant qui change tous les 6 mois, parce qu'on fait des stages de 6 mois. Cet encadrant, il y a un encadrant qui nous suit pendant toute l'année et qui est extérieur au service en fait où on passe. Et c'est l'encadrant éducationnel, enfin, ou de formation. Donc lui, il va s'assurer qu'on fait bien les cours à l'extérieur des cours en plus qu'on aimerait bien faire, des formations, etc. Que ça se passe bien, que s'il y a un souci, en fait, dans un service, ça va être la première personne à laquelle on va s'adresser. Donc, pas de conflit d'intérêts. Et ensuite, un encadrant qui est l'encadrant clinique, entre guillemets, qui va évaluer une compétence clinique et qui, du coup, doit travailler avec nous, en fait, dans le service, dans les services où on passe. Il y a un chemin très clair de reporting, de signalement, si quelque chose ne se passe pas bien, etc. Donc, c'est le système est là pour protéger aussi, enfin protéger tout le monde en fait, pas que les internes, mais essentiellement les gens qui sont en position un peu plus vulnérable. Et effectivement, quand on est étudiant, on est dans une position vulnérable. En fait, on dépend des gens qui vont nous former, du fait qu'ils soient juste avec nous, qu'ils nous apprennent ce qu'on doit apprendre, etc. La bienveillance. Ça, c'est quelque chose que je retrouve tous les jours, en fait, dans la grande majorité, des services où je passe, où c'est le standard. C'est-à-dire que, les gens sont tous différents. Il y a des gens qui sont plus ou moins enclins à être sociables, etc. Et on ne demande pas à tout le monde d'être pareil, en fait. Mais il y a un certain standard minimum, en fait, à acquérir. Et même de manière très pragmatique, les gens n'apprennent pas bien sous stress, en fait. Quand on est stressé, quand on a peur de faire des erreurs parce qu'on va nous sanctionner, parce qu'on fait des erreurs, alors que le sens même de l'apprentissage, c'est de faire des erreurs, en fait. On n'apprend pas bien si on fait des erreurs, si on ne fait pas d'erreurs, en fait. Si j'ai un étudiant qui ne fait pas d'erreurs, je me dis, bon, soit en fait il me cache ses erreurs et du coup il ne peut pas apprendre pleinement de ces erreurs-là, et là ça me fait vraiment peur. Soit en fait cette personne-là, elle n'est pas au bon niveau de formation. Il y a toujours un problème si on voit quelqu'un qui ne fait pas d'erreur. Donc les erreurs en fait font partie intégrante du processus d'apprentissage, et ça ne doit pas être une source de stress. Quand j'étais externe, et quand je voyais les internes aussi, quand j'étais en France, pas cette culture-là en fait de si tu fais des erreurs, on apprend en fait, on débrief. Il y a des séminaires entiers qui s'appellent morbidité et mortalité des patients, où on n'étudie que les cas qui ne se sont pas bien passés, qui ne se sont pas passés comme il aurait fallu. Et les gens qui étaient impliqués dans ce cas-là présentent ce qui s'est passé, etc. Il y a des experts qui viennent et on en discute et on apprend tous ensemble. Ça devient une opportunité d'apprentissage et pas une opportunité pour casser, pointer du doigt, etc. Donc ça, c'est une grosse, grosse différence. Et ça se passe parce qu'il y a un système qui est exactement pensé pour que ça se passe ainsi, en Angleterre en tout cas, et pareil aux États-Unis. Et j'espère que ça va devenir beaucoup plus le cas en France, vraiment.
Tu me donnais aussi l'exemple, quand on se parlait au téléphone, de enfin, le premier décès en fait qu'on voit en tant qu'élève, la différence de prise en charge en France versus en Angleterre. Qu'en France, il n'y avait pas grand-chose. C'était voilà, ça se
Ouais.
passe, et puis au suivant, voilà, on passe à la suite.
Ouais, c'est vraiment, c'est une manière de penser, en fait. C'est vraiment, je ne pense pas que les médecins, moi j'étais en réanimation médicale pendant mon premier stage d'externat. Donc, c'est un service où il y a énormément de décès parce que les
En
patients
France,
sont très, en France, ouais,
ouais.
dans un état très critique. Donc, c'est pas une surprise. C'est pas un service où. Donc, les décès, en fait, donc, arrivent souvent, plus souvent que dans d'autres services. Le premier décès d'un patient, du coup, que j'ai connu, qui est vivant, hein, c'était vraiment, c'était très choquant. Et malgré qu'on s'y attendait, etc., mais c'est toujours difficile, en fait. Il y avait eu zéro débrief. On est juste, voilà, au staff d'après. On a dit, bon, bah, tel patient est décédé, il y a tel autre patient qui va arriver dans cette chambre-là. Voilà,
Robotique.
j'ai. Ouais. Pas rien du tout. Et c'était vraiment très difficile. En Angleterre, enfin, ça se passe pas comme ça. Je pense pas que ça doit se passer comme ça. Dans n'importe quel service, il y a des gens, il y a des étudiants, peut-être dont c'est la première fois en fait qu'ils assistent à un décès. Et voilà, de vraiment de pouvoir, parce que c'est important pour devenir un médecin aussi, comment dire, qui sait parer en fait à ce genre de choses. Juste le mettre sous le tapis, l'ignorer, etc., ça ressort forcément à un moment ou à un autre. C'est jamais bon, en fait, des événements comme ça, traumatiques, juste de les ignorer. Ça ne
Mais
sert pas,
c'est
c'est-à-dire
pas
même,
anodin.
voilà, même d'une manière pragmatique, je ne pense pas qu'on forme de bons médecins. Souvent, je pense que les médecins qui sont dans ces services-là, ils sont très habitués et se disent bon bah c'est comme ça que nous on a été formés, personne n'en est mort entre guillemets. Mais en fait, peut-être qu'on peut faire les choses mieux, peut-être qu'on peut être de bien meilleurs médecins si on n'ignorait pas ça. Et j'en suis convaincue. Et convaincue aussi parce qu'en fait, il y a des articles, il y a de la recherche en fait qui est faite à propos de ces choses-là. Je pense que c'est pas une bonne chose, non.
Ok, bah écoute, merci pour cette comparaison. Est-ce que tu as un conseil si il y a des étudiants ou des étudiantes en France? Je pense que tu dois recevoir pas mal de sollicitations. Hein, qui veulent soit poursuivre leurs études voilà, en Angleterre ou à l'étranger, ou bien ouais, commencer juste après le bac. Enfin, quelle est la meilleure méthode selon toi et comment faire?
Alors. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont très bien dans l'éducation en France et notamment une vision en fait de l'éducation supérieure qui est vue comme un droit en fait presque comme un droit fondamental et c'est ce qui sous-tend en fait la gratuité par exemple des études de médecine, ce qui n'est pas le cas en Angleterre. L'éducation supérieure est vue comme un business, donc les étudiants payent très cher en fait pour pouvoir faire leurs études de médecine, encore plus aux États-Unis les gens s'endettent à vie en fait. C'est quelque chose à considérer en fait si on a envie de faire ses études de médecine à l'étranger. Ensuite, si on veut finir ses études à l'étranger, on ne peut pas enfin en tout cas avec l'accord de Bologne en Europe, qui est quand même, enfin qui est encore en vigueur malgré le Brexit, on ne peut pas finir ses études de médecine dans une autre université européenne si on l'a commencé quelque part en Europe. Donc si on la commence en France, il faut finir en fait, parce que moi j'avais essayé de transférer en fait quand j'étais en quatrième année ailleurs, et c'est ce qu'on m'avait dit en fait. Effectivement, c'est légalement c'est pas possible. Quand on est interne, il faut commencer. Enfin, si on commence à y réfléchir, c'est jamais trop tard. On peut même continuer ses études en cours d'internat à l'étranger, mais ça demande du temps. Ça demande beaucoup d'investissements pour lire toutes les informations qui sont là, envoyer des mails, faire la candidature, s'assurer des deadlines. Il faut investir un petit peu d'argent aussi, bah, par exemple, ne serait-ce que pour payer le IELTS, qui coûtait, je pense, à peu près 200 euros quand moi je l'ai passé. Traduire et certifier ces documents par des personnes assermentées, donc ça aussi, ça coûte de l'argent. Et du coup, c'est pas forcément facile et il faut vraiment savoir pourquoi on le fait parce qu'on peut être découragé en fait en cours de route. Et voilà, moi je suis toujours très contente de partager mon expérience, de partager mes conseils. Voilà, et contacter des gens qui l'ont fait en fait parce qu'il y a des petites subtilités qui sont pas forcément quelque part quoi.
Ouais.
Voilà.
D'accord. Ok. Écoute, bah, tu es la preuve que c'est possible de le faire. Et est-ce que c'est possible aussi de devenir médecin après ses études, devenir médecin en Angleterre après ses études? Est-ce qu'il y a des passerelles possibles? Ou il faut passer des diplômes, un diplôme pour l'équivalence?
Il faut repasser en fait ce qu'ils appellent ici les board exams. Donc, c'est les examens du collège de spécialité.
Collège,
Les examens
université, hein.
ouais, collège universitaire. Donc, par exemple, le Royal College of Pediatrics, où il faut passer quatre différents examens. Mais c'est possible. Et en général, il faut faire quelques années, quelques années, je dirais peut-être juste un an. Pour s'habituer un petit peu au système, ils vont pas embaucher quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans le NHS en fait, directement en tant que médecin. Une grosse différence aussi, c'est la médecine de ville en Angleterre est organisée de manière très différente en France. Il n'y a pas de secteur 2, il n'y a pas de spécialistes en fait en ville. Il y a le privé, donc les cliniques privées où il peut y avoir des spécialistes où du coup là on paye beaucoup plus cher qu'en France en général. Mais toutes les spécialités, mises à part la médecine générale, sont à l'hôpital. Donc, on ne peut pas venir s'installer, ouvrir un cabinet, en fait. Ça n'existe pas, en fait. Il faut soit aller à une clinique privée, être embauché par cette clinique privée, soit travailler à l'hôpital public. Pédiatrie, par exemple, il n'y a pas de pédiatre de ville. Il n'y a pas d'ophtalmo de ville. Il n'y a pas... Toutes ces spécialités-là sont à l'hôpital. Donc, voilà. Donc, si on a un cabinet, je sais pas, de pédiatrie en France, on ne peut pas juste ouvrir un cabinet de pédiatrie en Angleterre comme ça.
D'accord. Ok, très bien. Bah, écoute, c'était super intéressant. Enfin, merci pour tes conseils. Être médecin, c'est souvent vu comme un métier qui est assez prenant en termes de temps, en termes d'énergie. Donc, je me demandais, du coup, comment est-ce que tu gérais ça avec ta vie de famille? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu as trouvé tes repères?
Oui, ça devient plus difficile, ça devient plus intéressant aussi, je pense. C'est très prenant d'être médecin. Je pense que c'est important aussi d'avoir un rapport sain en fait à sa pratique médicale. J'avais plusieurs en France, je me souviens, un médecin qui me disait quand tu enlèves ta blouse, il faut que tu laisses tes patients là où tu accroches ta blouse. Et je pense que ce médecin avait raison parce que c'est très difficile de faire ça parce que c'est des humains en fait qu'on rencontre. C'est très difficile de complètement switch off en fait d'éteindre
Éteindre.
cette partie-là de son cerveau. Mais c'est important de le refaire pour se ressourcer et revenir le lendemain ou la nuit d'après vraiment en forme. Ça c'est enfin qu'on ait donc des enfants, une famille ou pas, et ça devient encore plus important quand on a des enfants et que en fait nos responsabilités envers nos enfants demandent à ce qu'on fasse encore plus d'espace dans notre cerveau et dans notre temps pour ça. Quand j'ai il y a d'autres choses aussi qui ont facilité ça ici. Donc moi j'ai pas de famille proche ici et la famille de mon mari. Ils habitent à 400 km d'ici. On n'a pas vraiment des gens. On a de la famille un peu qui habite à Londres, une de mes belles-sœurs, mais personne d'immédiat, en fait, qui pourrait nous aider avec le père de mon fils, etc. Ça a été, en fait, une organisation. Ça commence vraiment dans la manière dont le partenariat est établi au sein du couple, déjà. Vraiment, c'est. Avec mon mari, on est vraiment une équipe en fait, et on se soutient pour nos différents rôles, nos différents objectifs, et du coup, c'est tous les deux mis à mi-temps en fait. Donc ça, c'était une des choses qui a vraiment changé la manière dont j'ai pu retourner au travail après mon congé maternité. Donc on partage en fait le temps qu'on passe à élever notre petit garçon. Donc quand C'est lui qui. Donc, il a 1 an et demi maintenant.
Machin.
Et voilà. Ça, c'est quelque chose qui. De central, en fait. Vraiment de central. Et si on n'a pas. Si on n'a pas la capacité ou l'opportunité de faire ça, c'est vraiment s'entourer, en fait, d'autres personnes qui ont des enfants pour pouvoir se soutenir et pas se sentir seule parce que vraiment des fois ça peut surtout quand on n'est pas en tant qu'expatrié quand on n'est pas proche de sa famille ça peut être difficile en fait donc voilà
Ouais, d'accord. Tu as dit que vous étiez tous les deux à mi-temps, c'est ça? Lui aussi, du coup? D'accord,
ouais
intéressant. Intéressant.
il est chercheur à l'université également et voilà, c'était pas, enfin, c'était assez naturel en fait. Donc, on voulait pas mettre mon petit garçon à la crèche en fait tôt. Après, alhamdoulilah, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Hein. Le genre de travail qu'on
Ouais.
a, la situation financière qu'on a, mais tout d'abord la vision qu'on a en fait. Marie, il ne m'aide pas. Il est parent autant que moi, en fait. Donc, quand on parle de la responsabilité qu'on a pour élever notre garçon, c'est pas, il n'est pas, comment dire, un adjoint, entre guillemets.
Un
Il
support.
est partie prenante, voilà, à 100%, en fait. Donc, et aussi, quand je dis la vision, c'est aussi la vision du temps. Et je pense que c'est important quand on. L'importance qu'on accorde à son temps, d'accorder cette même importance au temps de son époux ou de son époux. Si on estime que son temps est très précieux, ben, en fait, on doit accorder cette même valeur au temps de son époux, en fait, de la personne qui partage notre vie. Et quand on fait quand on a cette vision-là, en fait, il y a beaucoup de choses qui coulent de source. Voilà. Je pense que ça, c'est une des choses, alhamdoulilah, dont je suis très contente et ça marche bien. Ça reste très
Alhamdoulilah.
difficile,
Non,
alhamdoulilah.
c'est pas évident. Hein. C'est
Non.
beaucoup plus simple quand c'est un travail d'équipe, comme tu dis.
Ouais, oui.
Ok, bah cool. On arrive vers la fin du podcast là, donc je vais finir par quelques petites questions
Oui.
que je pose habituellement. Quelle est la compétence ou quelles sont les compétences qui sont pour toi les plus utiles au travail ou dans la vie de tous les jours?
Alors déjà, vraiment le sens de son travail, le sens de son temps en fait. À quoi est-ce qu'on passe son temps et quel sens ça a? Donc
Je veux dire
pour moi,
comprendre le sens de son travail.
comprendre le sens de son travail, pourquoi est-ce qu'on le fait? Alhamdoulilah, pour moi, c'est vraiment c'est un moyen pour moi de servir Allah subhanahu wa ta'ala et ce vers quoi il nous exhorte. Donc, être utile aux autres, être un agent du bien, j'espère, inshallah. Donc, ça, c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment essentiel. Et ensuite, des compétences, la persévérance et l'enthousiasme. Être enthousiaste. Vraiment aller puiser cet enthousiasme vraiment parfois très profond quand ça ne va pas forcément dans le sens où on prend.
Comment tu arrives
Et
à rester enthousiaste à tout moment?
je ne suis pas à tout moment, mais alhamdoulilah, je lis déjà beaucoup de livres qui sont comment dire heureux entre guillemets. Je lis pas trop de choses qui sont
Positive.
tristes, voilà des choses un peu gaies. J'écoute aussi pas mal de podcasts et notamment des podcasts de rappel. Le lien aussi au Coran, ça je pense que c'est important parce que subhanallah, dans le Coran, en fait, il y a énormément de références sur les épreuves, qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois, ce retour au sens là et comment est-ce qu'on se comporte en fait face aux épreuves. Et du coup, ça me permet de me dire, ben, en fait, c'est l'épreuve, c'est pas l'anomalie. L'épreuve, en fait, ça fait juste partie de la vie. Et voilà, et ça me permet de me dire, bon, ok, ça va passer, ça va mieux se passer. Demander à Subhanahu wa Ta'ala de m'aider, de me guider. Souvent, je fais ce doigt de demander à Subhanahu wa Ta'ala d'ouvrir les yeux, vraiment. Il y a toujours quelque chose, en fait, qui peut nous aider. Et parfois, c'est juste s'en rendre compte, ouvrir les yeux là-dessus. Donc, voilà, c'est vraiment les qualités que j'essaye d'acquérir. Voilà.
Super. Quelle est la chose que tu préfères dans ton travail?
Mes patients. Enfin, les patients, pas forcément les miens, mais j'aime à me dire qu'on a un lien un peu privilégié. Et les voir enfin, évoluer et se sentir mieux. Et surtout, bah, c'est des enfants, donc parfois ça peut être très difficile, mais ils sont aussi plein de ressources, en fait, plein d'énergie, plein de vie. Ouais, ça c'est vraiment. Et la deuxième chose qui me plaît dans mon travail, c'est vraiment le long terme. C'est de revoir, en fait, des patients ou de suivre des patients pendant assez longtemps et de
Ouais.
voir comment est-ce qu'ils évoluent. Ouais.
La pédiatrie, c'est jusqu'à quel âge déjà?
Jusqu'à 16 ans. 17 ans
16 ans.
pour les
Ah,
enfants.
quand même.
Ouais. 17 ou
D'accord.
18 ans pour les enfants qui ont des handicaps. Et notamment en neurologie, il y a beaucoup de neurohandicaps. Donc, je vois jusqu'à 18 ans. Moi, ma sous-spécialité, c'est les troubles du développement très tôt. Donc, j'ai tendance à avoir beaucoup d'enfants ben, prématurés, d'enfants qui ont jusqu'à ouais, peut-être 10, 11 ans. Après ça, c'est plus rare que j'ai des patients parce qu'ils sont suivis ensuite par des spécialistes qui sont des neurodisabilities, donc neurohandicap, qui est une spécialité qui est et pas forcément par le neurologue. Voilà. Et puis dans la recherche, c'est mon autre casquette, c'est le challenge et l'opportunité de comprendre comment est-ce que ça marche.
D'accord. Est-ce que tu as des routines dans ta vie de tous les jours que tu suis tous les jours, toutes les semaines ou régulièrement?
Oui, j'ai toujours voulu me lever tôt. Et alhamdoulillah, c'est tout ce que j'ai réussi à faire maintenant. Donc ça, j'aime bien me lever tôt, me lever avant le fajr, avant le lever du soleil. Ça, c'est vraiment quelque chose que c'est beaucoup plus difficile en été. En tout cas, dans les mois d'hiver, ça c'est quelque chose qui change beaucoup la manière dont ma journée se passe. Je fais aussi vraiment de l'exercice physique autant que possible. J'en faisais beaucoup avant la naissance de mon fils. Et après, c'était un peu plus difficile de reprendre, ce qui est totalement normal et physiologique. Mais maintenant, je reprends ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi. Maintenir le lien avec d'autres musulmanes et d'autres femmes musulmanes. Je pense que ça m'aide aussi beaucoup.
Ok. Tu parlais de livres tout à l'heure, tu disais que tu aimais bien lire. Est-ce que tu as une recommandation ou quelques recommandations de livres qui t'ont marqué?
Ouais, alors un livre qui m'a marqué, c'est de Martin Winkler, qui est un médecin, qui a fait ses études en France et qui ensuite est parti à l'étranger, je pense en Belgique, au Canada, qui a écrit Les Brutes en blanc, qui est vraiment une petite autopsie de pourquoi est-ce que le système de médecine en France peut parfois être maltraitant. Le système.
D'accord.
C'est une lecture difficile, mais que j'ai trouvé très intéressante. Et puis, il a d'autres livres qui sont vraiment super.
Je mettrai ça en description, Inch'Allah.
Ouais.
Super. Bah écoute, on a terminé, Asma. Non, on n'a pas terminé, reste une question, pardon.
Oui.
comment faire pour te suivre ou te contacter si y a un auditeur ou une auditrice a une question, un étudiant, une étudiante, voilà, ou n'importe qui d'autre.
Ouais, le plus simple, vraiment, je suis toujours très contente de pouvoir partager un peu mon expérience et surtout Si ça peut faciliter la vie et le chemin d'autres, vraiment avec plaisir. Le plus simple, c'est sur mon LinkedIn. Je ne suis pas vraiment active sur d'autres réseaux sociaux.
D'accord.
Je regarde mon LinkedIn régulièrement.
Super. Écoute, je mettrai tout le lien en description. Asma, c'était très, très agréable de discuter avec toi. J'ai appris pas mal de choses sur le cursus musical, qui n'est pas du tout le mien. Mais machin là, du coup, ton parcours, je pense qu'il va en inspirer plus d'un. Puis, c'est vrai qu'on a souvent enfin, même moi, il y a des personnes qui me contactent. Je travaille à Singapour. Je veux savoir comment faire pour s'expatrier, pour étudier, faire un stage, par exemple, ou partir quelques années, tout ça. Et c'est vrai de voir que des gens de la communauté enfin, partent, ça, pas mal de gens se disent que c'est pas possible en fait, c'est trop compliqué, ça demande soit trop d'énergie, c'est pas pour nous, facilite un petit peu, et le fait de voir des personnes qui le font, je pense que ça motive. Donc ceux qui ont l'opportunité d'avoir une expérience comme ça à l'étranger, faut pas hésiter, je pense que ça apporte beaucoup de, au moins de passer un petit moment, même ne serait-ce qu'un petit stage à l'étranger, ça ouvre les yeux, le monde est grand.
Ouais.
Donc voilà, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter en conclusion.
Baklaoufik pour cette opportunité vraiment et pour ton podcast parce que vraiment ça me ça fait partie un peu de mes routines maintenant d'écouter le podcast et notamment la partie sur vivre la révélation que je trouve vraiment extrêmement bien faite donc Baklaoufik, merci de m'avoir donné l'opportunité un peu de partager ce que je fais et je pense que c'est si je peux inspirer entre guillemets je pense que c'est déjà un très grand mot mais en tout cas montrer que c'est totalement possible et puis si on n'est pas très bien là où on est comme tu dis le monde est grand donc similaire
Bismillah, c'est belle parole. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah, que Dieu te facilite dans ta recherche et dans tout ce que tu entreprends. Et je te dis à
Baraklou.
bientôt, Inch'Allah. Salam
À
alaikum.
bientôt. Wa salam.
Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.